Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, comment
ça va? On est ensemble, bah, très bien, on est ensemble pendant 2 heures, enfin pas avec vous, ce sera que quelques instants.
Mais oui, je suis comme les choses rares, voilà. Je ne suis pas dans la durée.
Voilà, 10h midi pour commenter l'actualité, évidemment, l'investiture de Joe Biden, est-ce qu'on en a trop fait? J'ai vendu votre question.
Mais oui, mais voilà, c'est la nôtre.
C'est
ce
qu'on s'est dit ce matin avec Gilles, donc c'est la question qu'on vous pose sur Twitter ce matin. Gilles, je vous laisse la
How are you? Est-ce que les chaînes d'infos en ont fait trop? Alors, il faut dire qu'ils ont démarré à 6h du matin jusqu'à 3h, parce qu'ils ont diffusé, vous savez, le show américain qui avait lieu, un show incroyable d'ailleurs, mais vraiment presque du 24h sur 24 sur l'élection de Joe Biden. Alors, on vous a demandé, en effet, est-ce que les chaînes en ont fait trop? Oui, à 90%, non, à 10%. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio et nous donner vos opinions sur savoir si les chaînes d'infos ont vraiment fait beaucoup de choses sur l'investiture.
Beaucoup trop, oui. Alors, Jackie nous dit pas plus que tous les 4 ans, juste une allégresse plus prononcée de voir un Biden comme le grand messie de la démocratie écraser le vilain Trump. Les médias aujourd'hui n'ont plus cette discrétion vis-à-vis du public sur leurs choix politiques. C'est assez juste,
Jackie,
ce que vous
dites.
Vous avez absolument raison. On avait des sentiments parfois d'avoir des journalistes au bord des larmes. Voilà. Gilles, on passe au zapping ?
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Hier, le 45e président des États-Unis a laissé la place au 46e. Donald Trump est parti et il a fait bye-bye.
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 I'm out of here. Bye.
Bye-bye. So, I'm going to leave now. Goodbye, everybody.
Bye-bye.
Et donc, vous pouvez aller sur Twitter. Il y a Vice, vous savez, la télévision, qui a fait un montage de 1 minute 45 de tous ces bye-bye. Et c'est plutôt drôle. Voilà, je vous en ai mis 20 secondes. Un départ qui se fait avec un dernier message. Je ne sais pas si vous avez vu sur le tarmac au son de YMCA et de My Way. Alors, My Way, ça a fait énormément moquer sur les réseaux sociaux. Mais attention, les paroles de My Way ne sont pas celles de Comme d'habitude de Claude François. Parce qu'en effet, je me lève, je te bouscule. Alors, quand on traduit le My Way de Frank Sinatra, vous allez voir, ça prend tout son sens. Je vous ai fait ce petit exercice, Valérie. Oui, il y a eu des moments dont tu as sûrement dû entendre parler. Oui, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Mais au-delà de tout ça, quand il y avait un doute, j'en ai fait qu'une bouchée et les recracher. J'ai affronté tout ça et j'ai été à la hauteur. Et je l'ai fait à ma façon. Voilà pourquoi ça a été My Way. Ça expliquait bien le sentiment.
YMCA, c'était plus rigolo que
My Way.
Hein. There's no need to feel down. Il n'y a pas de raison d'être déprimé.
Exactement. Voilà. Je vous fais la lettre pour ce qu'on fait.
Faites la danse.
Voilà, mais c'était important quand même, je trouve, de voilà expliquer pourquoi il a fait My West, parce qu'il bouscule la première dame dans le lit. Ce qui a été remarqué dans le discours de Joe Biden, c'est cette prière au milieu de son discours, un appel au recueillement, une minute de silence pour les morts du Covid.
Mon premier acte en tant que président, ce sera de vous demander de vous joindre à moi dans un moment de silence, de prière, en mémoire des 400 000 âmes, des 400 000 Américains. Joignez-vous à moi dans un moment de prière silencieuse pour eux.
Alors, une minute de silence qui a déjà donné lieu à la première discussion au comptoir, au bar de Pascal Pro. Alors, ils se sont battus sur cette minute de silence avec un William Goldnadel qui a été très virulent.
Est-ce que l'anti-antitrumpiste primaire peut faire remarquer deux choses?
Non, parce que je voudrais qu'on avance.
Deux choses. Parce
on avance jamais.
La première, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas une minute de silence pour les accidentés de la route. Je ne sais pas pourquoi. Premièrement,
c'est comme un drame national, le Covid.
Mais les morts sur la route aussi. Mais les morts sur la route aussi.
Moi, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence ici, de temps en temps, si vous permettez. Ça me ferait des vacances.
Et deuxièmement, sur...
Et voilà, c'est le bar de CNews. Hein. Et je vous en avais parlé hier. Je ne pouvais pas faire l'impasse dessus, Valérie. D'après vous, c'est quoi mon dernier son?
Lady Gaga.
Oui, je sais bien.
Il y en a qui ont trouvé qu'elle avait un peu hurlé.
Je savais que vous seriez critique. Dans une belle robe rouge, arborant une colombe dorée de la paix, elle a donc entonné l'hymne national. Elle y a mis du cœur.
Elle a de la voix. Hein.
Elle a de la voix, c'était un moment assez émouvant.
C'est bizarre, ces petites nattes sur la tête, j'ai trouvé.
C'est vrai, ouais. Bon. C'est de votre côté fashion.
Heidi, absolument.
Ouais, ça ne vaut pas la robe de, vous avez vu,
de sur Mélania le, de qui Mélania. Descend de l'avion. Bah, c'était mise en tenue de plage. Hein,
elle,
avait mis
sa, elle était prête à aller au soleil.
Et puis elle n'a pas fait une minute de plus. Hein, elle est descendue de l'avion, elle a filé, elle n'est pas restée devant les caméras. Allez, dans un instant, on reçoit Yvan Cassard, chef d'orchestre de génie. Oui, on va parler musique avec lui, avec une soirée spéciale sur France Télévisions, sur France 2, samedi soir. On en parle avec lui dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est le grand Yvan Cassard. Bonjour Yvan Cassard.
Bonjour Valérie.
J'ai le grand parce que vous êtes un immense chef d'orchestre, un immense musicien. Vous avez travaillé avec les plus grands. Alors ceux dont, si votre nom n'évoque rien, vos cheveux,
c'est
donc
ça.
On vous reconnaît assez
c'est
facilement.
Bon, en fait, je me suis dit, il fallait trouver quelque chose et c'est ça, c'est les cheveux.
Mais c'est vrai que vous êtes un musicien hors pair et un chef d'orchestre qui a travaillé et un arrangeur, je ne sais pas si on dit arrangeur,
si.
Vous avez travaillé avec, avec les plus grands, hein, de Johnny à Patricia Cass, en passant par, je ne peux même pas tous les citer, mais pratiquement tous les artistes
Aznavour,
français,
Nougaro, Pagny, pas mal.
Mylène Farmer,
évidemment. Voilà. J'ai de la chance.
Vous avez beaucoup de chance. Il n'y a pas que la chance, je pense. Et donc, vous êtes là pour une soirée tout à fait particulière et très réussie, je dois le dire, sur France 2, samedi soir, qui s'appelle Symphonissime, c'est une soirée qui est consacrée à la chanson française et toutes ces chansons du répertoire sont réorchestrées avec un orchestre symphonique.
Exactement. Ouais. L'idée, c'était de revenir à cette esthétique qui m'est si chère, c'est-à-dire, bien sûr, les chanteurs, la chanson, des grands standards de la chanson que beaucoup de gens connaissent, que tout le monde connaît, mais avec toujours l'orchestre, pour montrer à quel point l'orchestre peut s'adapter à des milliers d'esthétiques, à des milliers de voix, c'est-à-dire que c'est un caméléon, l'orchestre, c'est une chance, c'est beaucoup d'émotions, une palette sonore extraordinaire, et de mettre ça avec tous ces chanteurs, c'est fantastique. Et en live, 80 personnes en live sur scène qui chantent pour de vrai, si j'ose dire. C'était une très très belle expérience.
C'est vous qui avez eu l'idée.
Il y a 80 musiciens, c'est ça?
Il y a 60-65 musiciens, mais il y a 20-25 chanteurs. Ouais. Donc plus un groupe moderne. Donc il y a du monde, ouais, il y a du monde.
Il y a du monde. C'est vous qui avez eu l'idée?
Non, c'est mes amis, c'est Sylvain Plantard de chez Morgane qui fait beaucoup, avec lesquels j'ai fait beaucoup d'émissions classiques et puis France 2, Alexandre Arède, ouais, c'est une idée commune. Ça fait longtemps qu'avec Sylvain, on voulait faire quelque chose, et parce qu'il connaît aussi mon amour. C'est dans mon ADN, c'est depuis le début, depuis que j'ai commencé. Je viens de la musique classique, je viens de l'orchestre, et puis j'ai fait des petits chemins de travers, j'ai pris quelques chemins comme ça, mais avec de la pop que j'adore. Mais c'est de revenir, de mélanger l'orchestre symphonique et la pop, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup.
Alors on va citer évidemment les musiciens qui sont avec vous, je vous écoute. Non, je plaisante. Non, mais en fait, c'est vrai.
Oh oui,
c'est vrai. Qui sont dans les violons?
Bon, ça suffit. Ça suffit.
Non, alors, ce que je voulais savoir,
Tamou, premier violon de l'Orchestre National de France.
Ah, est-ce que vous les connaissez tous quand on dirige un orchestre? Est-ce qu'on a le temps de connaître chacun des musiciens? Et est-ce que c'est vous qui les choisissez?
Alors, en l'occurrence, c'est le double cadeau de cette émission, c'est que justement, parce que les choses, ces projets se multiplient, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de faire, et j'ai trouvé que j'avais l'âge pour monter mon propre orchestre. Et cet orchestre s'appelle l'Odyssey Symphony Orchestra.
Ah.
Et donc, ça fait déjà deux émissions. J'avais fait un concert des étoiles avec Roberto Alagna et puis un Olympia Symphonique, un concert, il y a un an et demi. Et donc, j'essaie de faire naître cette formation parce que c'est important d'avoir des musiciens d'exception qui comprennent ma démarche et qui soient aussi capables de jouer des styles et des esthétiques différentes.
Parce que pour des cuivres. C'est pas évident pour.
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'excellents musiciens classiques, mais. Par exemple, les cuivres, il faut qu'ils soient capables de jouer très très bien la musique classique, mais aussi d'un coup, quand on va faire du big band ou du jazz, qu'ils puissent comprendre ça, qu'ils soient polyvalents. Donc du coup, c'est pour ça que je peux vous dire que je connais les musiciens, parce que c'est mon bébé et que je les ai choisis avec un ami, Jean-Michel
Tavernier. On les a, c'est un casting un peu. Voilà, des gens qui me font confiance, avec lesquels je travaille depuis très très longtemps. Parce que un orchestre, on a l'impression que c'est une masse, mais c'est pas une masse impersonnelle. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça.
C'est une
micro-société. Mais en fait, pour avoir cette ambiance, cette cohésion musicale, artistique, c'est important de connaître et d'avoir voilà, quelque chose d'homogène. C'est une vraie équipe.
Hein. Et sur le fait, vous dites qu'il y avait beaucoup de monde, on était en période de Covid, il y a du monde, il y a du public, il y a du monde sur la scène.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est un peu paradoxal par rapport à l'époque.
Disons que c'était un challenge de dingue, parce qu'évidemment, avec les distanciations, les musiciens sont beaucoup plus espacés que d'habitude, donc vous vous retrouvez avec des percussions à 25 mètres, tout le monde est comme ça.
Et ça change dans l'acoustique, forcément.
Ça change dans l'acoustique, et puis pour le fait d'être ensemble, bien sûr, c'est assez compliqué. Alors, ce qu'on avait mis, c'est qu'on avait mis des petites enceintes un petit peu partout pour rapprocher un petit peu le son. C'était un peu compliqué, mais je préfère retenir que cette aventure est exceptionnelle, parce que en ces moments difficiles, de se retrouver tous à faire de la musique, et je dirais les musiciens, ils étaient plus que contents, parce que
bien
ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas fait de jouer comme ça dans une salle. Et les chanteurs, parce que les artistes, vous savez, sont souvent dans une frénésie, ils enchaînent une concert, une promotion, un disque, un enregistrement, trois tournées. Enfin,
ils avaient le temps,
et du coup, ils étaient vraiment heureux d'être là. Et cette expérience qui est toujours un petit peu stressante, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui appréhendent un peu l'orchestre, parce que l'orchestre, ça peut paraître quelque chose d'un peu figé, parce que c'est de la musique écrite, donc du coup ils se disent, mon Dieu, s'il m'arrive quelque chose, comment l'orchestre va me suivre, etc. Il y a toujours une appréhension et le bonheur, donc il y a cette espèce de mélange, et du coup ils étaient tellement heureux que ça nous a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. C'était sans doute mon plus grand cadeau. C'est-à-dire, ils repartaient après soulagés, enchantés, contents de l'expérience. Parce que c'était trop bien. Ça c'est le plus beau cadeau.
J'imagine que c'est plus dur de chanter avec un orchestre, parce qu'il faut être au-dessus de tous les instruments.
C'est pas plus dur, c'est parce que un orchestre, ça, c'est très dynamique, ça peut être très puissant, mais un tapis de cordes très doux qui là, c'est très 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 peu fort, ça vous enrobe, c'est peut-être moins fort qu'une guitare acoustique, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt l'enjeu, c'est-à-dire qu'on est dans une qualité de son, de musicien, c'est un petit peu d'appréhension, vous savez, en se disant, oh là là, c'est tous ces musiciens vont me juger quand je vais chanter, alors que les musiciens, ils sont pas du tout là à juger, ils sont contents de les entendre, ils sont trop ravis. Donc c'est juste, ça, il faut pas, toujours pareil, il faut franchir cette petite barrière d'appréhension commune, de culture, qui fait que, oh mon Dieu, c'est un orchestre, ils vont me juger, et dans les deux sens.
Écoutez la bande-annonce qui va donner une idée un petit peu de ce qu'on va pouvoir entendre samedi soir.
Soyez les bienvenus dans l'écrin majestueux du Théâtre du Châtelet à Paris pour une soirée exceptionnelle. Les grands noms de la chanson vont interpréter sur cette scène, en live, quelques-uns des plus beaux airs de notre patrimoine musical. Ces chansons, vous les aimez, vous les connaissez. Vous allez les entendre ici, dans des versions spécialement imaginées et écrites pour le grand orchestre symphonique dirigé par le chef Yvan Cassar.
Inédit, Symphonissime, présenté par Stéphane Bern. Samedi soir à 21h05 sur France 2.
Alors, évidemment, on n'avait pas cité Stéphane Bern, qui est, j'ai envie de dire, le maître de cérémonie,
ça,
on ne va pas
exactement.
Dire le chef d'orchestre cette fois-ci, présenté donc par Stéphane Bern. Et effectivement, on a une Jane Birkin qui chante avec un orchestre symphonique. J'ai trouvé que cette version de la javanaise était absolument magnifique.
C'est vrai. Alors, elle a déjà un petit peu connu cette expérience, qu'elle a fait un disque et une tournée symphonique. Alors, elle nous a fait le bonheur d'être là, et on était très heureux, parce que cette esthétique lui va tellement bien. Et on parlait tout à l'heure des voix, c'est ça qui est beau, c'est que ça soit des voix féminines, masculines, puissantes, en douceur, en intimité. Voilà,
il y a vraiment un mélange. Il y a Julien Doré, Florent Pagny, Louane, Élodie Frégé, Christophe Maé, on ne va pas tous les citer.
Oui, Vianney,
Olivia Ruiz, Vincent Niclot.
Nathalie
Niclot.
Dessay, sa fille.
Oui, absolument, Patrick Fiori, bref, il y a toute une... Et vous disiez, l'orchestre symphonique, la musique symphonique s'adapte à toutes les chansons.
Vous voyez, on vous parler de tous les chanteurs, et quand on fait Caruso avec Florent Pagny, ou de la comédie musicale avec Nathalie Dessay et sa fille, c'est pas pareil que du jazz avec Dany Bruyant, et de la pop avec Vianney, ou de la musique. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est tout dépend de l'écriture, c'est une telle patte sonore, l'orchestre, vous voyez, que aussi bien dans les dynamiques que dans l'esthétique, vous pouvez suivre. Il y a un petit groupe, un groupe pop avec, et donc avec tout ça, c'est un cadeau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et s'adapter. Et l'intérêt, moi, c'est mon métier depuis 30 ans, c'est de, d'habiller les chanteurs et de trouver le meilleur son, la meilleure esthétique pour leur, qui convienne le mieux à leur voix et aux chansons. Et là, et ben avec un orchestre, c'est ça, c'est ce travail qu'on a essayé de faire dans cette émission, c'est-à-dire choisir avec les chanteurs les chansons les plus adaptées, ou de leur répertoire, ou des reprises qu'ils avaient envie de faire, parce que je pense que c'est très important.
C'est important de reprendre une chanson qu'on aime.
Voilà, exactement, et que, évidemment qu'elle s'adapte quand même un peu, qu'on se dise, là, il y a quelque chose à faire, et d'avoir des surprises, parce que c'est pas non plus qu'un programme où on entend qu'une grande chanson d'il y a 30 ans, il y a aussi des chansons récentes, et je trouve ça très bien, par exemple, que les tubes et les hits du moment des chanteurs, d'offrir une version revisitée, que les gens découvrent, et parce qu'ils vont redécouvrir des versions inédites des chansons qu'ils connaissent, et aussi celle-là qui commence à être très connue, quand on entendait Beau Papa de Vianney, tout le monde connaît en ce moment cette chanson. Et ça, c'est intéressant à chaque fois de proposer un nouvel éclairage, parce qu'on est submergé par la musique, et d'avoir quelque chose qui change un petit peu, je trouve que c'est
original, voilà. Challengeant.
On aurait pu faire du Nick Tamer, du NTM, avec un orchestre symphonique.
Bien sûr qu'on peut faire.
On peut faire du rap en symphonie.
Bien sûr qu'on peut faire du rap avec symphonie. Alors, je ne vous dis pas que, par exemple, dans un cas comme ça, peut-être qu'on ajouterait un petit peu de programmation hip-hop, quelques sons électroniques avec l'orchestre. Encore, on mélangerait. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Tout peut se mélanger avec l'orchestre.
Qu'est-ce que vous avez dans votre portable comme musique? Vous écoutez quoi, alors, du coup?
C'est un mélange de tout. C'est-à-dire que j'écoute aussi bien de la pop que de la musique classique, que du jazz.
Dernier truc que vous avez écouté, vous dites, allez, je m'écoute.
Là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai écouté beaucoup de chansons. De Camélia, en passant par Julien Doré. Parce que là, j'ai eu tellement à travailler. Et puis voilà, donc j'étais baigné dans la chanson.
Mais si je vous pose la question que pose Yann Barthès, c'est-à-dire la plus belle chanson du monde pour vous,
c'est très très compliqué.
C'est compliqué,
parce qu'il y en a tellement des belles chansons. Il y en a tellement de chansons. Et j'aime autant une sublime chanson de Brel qu'une chanson de Nougaro. Malheureusement, j'aimerais vous dire qu'il y en a une au-dessus de tout, mais non.
Pour finir, les questions de Barthès, une chanson pour faire l'amour?
Alors moi j'aime énormément une chanson de Joni Mitchell qui s'appelle Both Sides Now, qui est une chanson vous l'écouterez, vous verrez.
Je vais écouter, je la note.
La chanson pour nos éditeurs.
Pour danser ivre mort.
Je ne sais pas.
Vous ne buvez pas. Comment on passe d'une formation classique à la variété, quand je dis variété au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'au départ vous destinez quand même vous avez joué de la clarinette, c'est ça.
Oui.
Vous vous destinez quand même à être dans un parcours plutôt classique.
C'est ça.
À quel moment ça bifurque?
En fait, c'est un peu un hasard. C'est les destins et les circonstances, c'est assez incroyable. Parce que quand je suis sorti du Conservatoire de Paris, je n'imaginais pas une seule seconde faire ce métier. J'imaginais faire de la musique, mais je me voyais plus comme quelqu'un qui travaillerait à l'opéra ou au théâtre. Parce que j'aimais les chanteurs, j'aimais les styles différents. Et faire de la musique de film, j'adorais. Et puis, il se trouve que quand je suis sorti très vite, il y a eu quelques opportunités. C'était le revival des cordes dans la chanson. Et du coup, on m'a demandé un arrangement, un autre. Comme ça, j'ai commencé timidement. Ouais. Et puis, petit à petit, ça s'est fait. Et sur 10 ans, je trouvais ça intéressant. Et il y a une chose pour laquelle je ne suis pas très, très bon, c'est d'écrire de la musique et de faire des choses en me disant, j'écris ça, et puis dans 2 ans ou 3 ans, j'espère que ça sera joué. Ouais. J'aime travailler avec plein de personnes, collaborer, échanger. Travailler avec un groupe, etc. Et la chanson a été un territoire idéal pour ça. Et la scène, finalement, parce que ce qui m'est tombé dessus après, qui a fait que ça a été compliqué, j'ai travaillé d'abord avec Mylène sur des spectacles, parce que j'avais fait une musique de film avec Laurent Boutonnat, qui était son compositeur.
Elle a pas de voix, Mylène Farmer.
Mais elle a une très, très jolie voix. On va revenir à ça, si vous voulez, après.
C'est de la provoque.
Non, vous avez tort, parce que ce qu'on aime chez les chanteurs pop, c'est justement la fragilité et la beauté dans l'imperfection. Elle n'a pas une voix parfaite, Mylène Farmer, dans le sens, voilà. Comme personne, qui a une voix parfaite? Les chanteurs classiques ont une chanteur.
Les
chanteurs,
Américains,
voilà. Non, c'est pas des voix parfaites. Et d'ailleurs, parfait, ça nous ennuie.
Entre une Céline Dion et Jennifer et Mylène Farmer.
Mais il y a des gens qui aiment pas Céline Dion, même si c'est une immense chanteuse, parce que ça, dans son ambitus, la manière de sa dynamique et sa voix, il y a des gens que ça ennuie ou que ça touche pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on aime dans un chanteur pop? C'est être touché par son émotion, son personnage, ce qu'il véhicule et la voix. Et c'est justement, c'est même, moi, pour travailler beaucoup avec des chanteurs classiques, très souvent, je dis toujours, ils ont une tellement belle voix que finalement, quand ils chantent des chansons pop, ça nous ennuie parce que c'est un petit peu plus, un peu plus normal. Vous voyez, et on n'aimerait pas Bob Dylan s'il chantait juste, quoi.
Est-ce que c'était mieux avant, les chansons, quand on pense à Reggiani, quand on pense à Ferré, quand on pense à ces... Ou est-ce que l'époque a changé et qu'on ne peut pas demander la même chose?
Je pense que c'est comme pour tout. On fait pas le tri parce qu'on reçoit tout au même moment. Ouais. Et évidemment, mais il y a de nos jours, il y a des très belles chansons. Il y a aussi des très belles chansons. C'est évidemment que on est hanté par tous ces grands génies de la chanson française. Et je vais pas vous dire le contraire. Ouais. Mais il y a aussi de nos jours des gens qui écrivent bien. Donc il faut pas. Ouais. Voilà. Et par contre, je dirais que ce qu'il faut, c'est aussi combattre cette esthétique, c'est-à-dire que, et c'est en ce sens que cette émission, je la trouve vraiment intéressante, c'est que même, par exemple, quand vous entendez des standards du moment revisités avec l'orchestre, on se rend compte à quel point ça peut aussi donner une petite noblesse à la chanson, et ça, je trouve ça challengeant et très intéressant.
Allez, merci Yvan Cassard d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on vous retrouve à la baguette, c'est comme ça qu'on dit.
Absolument.
Samedi soir sur France 2 dans Symphonissime, présenté par Stéphane Bern.
Merci.
Alors, la question...
C'est samedi soir.
Oui, votre question du jour. Alors, quand même, les audiences hier...
Sur quelle musique vous faites l'amour?
Non. Hier, les JT ont cartonné. 7 millions pour le 20h de Gilles Boulot. 2 millions, plus de 2 millions pour Quotidien spécial investiture de Joe Biden. Donc, visiblement, il y avait une envie et une curiosité. Mais nos auditeurs, en tout cas ceux qui ont voté...
Mais est-ce que cet intérêt était sur 24 heures? Est-ce que c'était sur toute la journée? Ça, on le verra avec les audiences des chaînes info. Car en effet, les chaînes info... On parlait de Joe Biden, de 6h du matin jusqu'à 1h, voire 3h du matin. Donc, on vous a posé la question, est-ce que les chaînes d'info en ont fait trop avec l'investiture de Joe Biden? Eh bien, oui, Valérie à 91%, non à 9%. Vous votez encore sur le compte Twitter de Sud Radio. Mais en effet, pour nos auditeurs, les chaînes, ils en ont fait un petit peu trop.
Allez, on va continuer, nous, à parler des États-Unis avec Jean-Claude Beaujour. Et puis, on en redébattra avec nos éditorialistes. Dites-nous ce que vous en pensez, vous aussi. Est-ce qu'on met trop d'espoir dans Joe Biden? Il y a une véritable vague d'espoir qu'on a senti monter hier.
Kamala Harris,
superstar. Voilà, on ne sait pas grand-chose d'elle tout de même, mais elle est devenue une sorte d'égérie, d'héroïne. On y revient avec vous dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Vrai Sud Radio.
Parlons vrai.
potentiel pour d'autres.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va se retrouver dans un instant pour commenter l'actualité plus générale, mais plus précisément l'actualité, c'est évidemment l'intronisation hier du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, qui a pris place pour la première fois derrière le Resolute Desk de la Maison-Blanche. Une cérémonie qui a été très suivie, on le disait, qui a été très couverte d'ailleurs par les télévisions françaises. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Merci bonjour. D'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes président de France-Amérique. Vous connaissez extrêmement bien les États-Unis. Vous avez suivi cette élection depuis la France, cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans cette journée hier?
Alors, c'est vrai qu'il y a, j'ai envie de dire, trois éléments qui ont été surprenant ou différent des autres inaugurations. Le fait qu'il y ait le coronavirus, évidemment, ouais. Changeait complètement la nature de cette manifestation qui est en général à la fois une manifestation extrêmement... Il y a beaucoup de cérémonial et en même temps, c'est un grand moment populaire. Politiquement, ouais. Les gens se sont affrontés avant, ils vont s'affronter après, mais le jour de l'inauguration, c'est un peu une espèce de journée de communion nationale où les opposants se retrouvent. Vous l'avez un peu vu hier, mais oui. Mike Pence était un peu tout seul, oui. Avec Bush comme républicain. Il y avait Mitch oui. McConnell. C'est vraiment un jour particulier avec de grandes fêtes, des balles présidentielles, etc. Ça n'allait pas être le cas avec le coronavirus. Ouais. Deuxièmement, ouais. La question de la
sécurité.
Il n'y avait pas cette liesse. Vous savez que, par exemple, pour Barack Obama, il y avait aux alentours de 4 millions de personnes ouais. à Washington. Ouais. Là, quelques milliers, encore quelques happy few triés sur, même pas triés sur le volet, mais pour des questions de sécurité. En plus, il y a eu très peu de gens. Bref, ces deux éléments gâchaient un peu la fête. J'ajoute, évidemment, il y avait un grand absent, c'était le président en sortant, le président Trump n'était pas à la passation de pouvoir. Et ça, c'est vrai que ça donnait un côté
de... Il aurait dû être là parce qu'il y avait les trois autres présidents et on avait l'impression qu'il n'existait pas dans
son nom,
la lignée.
Son nom n'a même pas été prononcé. Mais, hein,
est-ce qu'il a fait une erreur finalement? Est-ce qu'il aurait dû être là?
Je crois que Valérie, sur votre antenne, on avait déjà dit, je vous parie qu'il ne sera pas présent.
Bien sûr.
Je pense que mentalement, psychologiquement et compte tenu de tout ce qui s'était passé avant, je ne suis pas surpris qu'il ne fût pas là. Est-ce que c'était souhaitable? Évidemment que non. Oui. Je pense qu'il avait une dernière occasion, non pas de se racheter, mais de se présidentialiser. C'est aux alentours du 8 décembre, lorsqu'il a eu épuisé les voies de recours, puisqu'il contestait la victoire de son challenge, de son concurrent, de Joe Biden. Lorsqu'il a eu épuisé les voies de recours judiciaires, il aurait dû dire, voilà, La justice s'est prononcée. Ouais. On est dans un état de droit. Voilà, bon vent à mon successeur. Il ne l'a pas fait. C'est dans la logique. C'est juste regrettable parce que précisément pour l'Amérique, une Amérique qui est à ce point fracturée, ça ne peut que renforcer non pas simplement le sentiment, mais les velléités de chacun dans son camp. C'était d'un côté démocrate, de l'autre côté ses partisans. Et c'était dommage parce que ses partisans sont aussi les Américains.
Mais le nom de Biden. Le nom de Trump n'a pas été prononcé par Joe Biden également.
Bien sûr, tout comme Trump n'a pas prononcé le nom de Biden, si vous voulez. C'est la réponse du berger à la bergère. Évidemment que je regrette tout cela parce que je me souviens, vous savez, nous étions tous un petit peu plus jeunes. Souvenez-vous, en 2001, lorsque Al Gore a été battu par George Bush, alors même qu'au départ il contestait l'élection, c'est lui, en tant que vice-président candidat battu, qui a procédé à l'authentification des votes en faveur de son concurrent, et qui était à la passation de pouvoir de son concurrent. Voilà, c'est un exemple pour vous dire, c'est dommage qu'on n'ait pas assisté, il n'y ait pas eu un dépôt des armes, quitte à recommencer
à se battre. Mais qu'est-ce qui vous a frappé, vous, au-delà de ça? Est-ce qu'il y a un moment particulier qui a été qui vous a marqué?
Alors,
vous,
c'est vrai qu'avoir une vice-présidente. C'est un grand moment dans l'histoire de la démocratie américaine, et comme je suis assez favorable à l'égalité au sens large, et notamment l'égalité homme-femme, c'est vrai que symboliquement, la politique c'est aussi une question de symbole, symboliquement le fait que pour la première fois il y ait une vice-présidente des États-Unis, c'est aussi un message, c'est un exemple.
Mais est-ce qu'on n'est pas, moi j'ai le sentiment quand même, on ne sait pas grand-chose de Biden, c'est un vieux routier, vous l'avez dit, mais on a quand même l'impression que c'est le Messie qui arrive, que Kamala Harris, c'est une sorte de vierge. Il y a quelque chose un peu extatique dans les commentaires qui ont été faits hier. On ne sait pas vraiment, on a l'impression que Biden va révolutionner, qu'il est le sauveur de la démocratie. Attendons de voir.
Alors, vous me connaissez un peu, vous savez bien que les commentaires excessifs, c'est pas trop bon genre. Oui. On a toujours dit, le président des États-Unis et le nouveau gouvernement vont, l'un et l'autre, défendre les intérêts des Américains, premièrement. Ouais. Deuxièmement, on a toujours dit que la crise que traversent les États-Unis, ce n'est pas une crise uniquement liée à la personne de Donald Trump. C'est une crise qui est bien ancienne, avec des politiques publiques qui n'ont pas été ou mal mises en œuvre, y compris avec des démocrates. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. D'un coup de baguette magique, les choses, on ne va pas régler le problème, par exemple, le problème de santé publique, en fait, la politique de santé publique, en 100 jours, ça n'est pas vrai. Ouais. La transition écologique ne se fera pas en 100 jours. Et enfin, je m'arrête là, la question des divisions ethno-raciales aux États-Unis ne va pas se régler d'un coup de baguette magique, ou plus largement, la question de la pauvreté, parce que les États-Unis, ce sont deux mondes. Ça peut être le tiers-monde, et ça peut être ces villas des millions, milliards de dollars, des millions de dollars en tout état de cause.
Oui. Vous êtes le président de France Amérique.
Le vice-président.
Vice-président de France Amérique. Comment il est, Macron, avec Biden? Est-ce qu'il va mieux s'entendre avec Biden qu'avec Trump, ou il était très pote avec Trump? Est-ce que c'est une bonne chose pour nous?
Alors, je pense qu'en politique, il n'y a pas de pote. Il y a des hommes et des femmes qui défendent des intérêts. En revanche, cela étant dit, il peut y avoir une sensibilité personnelle qui fait que des affinités qui font que les hommes et les femmes, et ça c'est vrai aussi, ça compte, se comprennent mieux. Une chose est certaine, c'est que le passé étant ce qu'il est, on ne parlera plus, en tout cas dans l'immédiat, de Donald Trump, mais de Joe Biden. Le vice-président, voyez l'erreur, le vice-président, le nouveau président des États-Unis est un homme connu sur la scène internationale parce qu'il a été, il a présidé de nombreuses commissions à dimension internationale au Sénat. Il a été le vice-président de Barack Obama. Il a un certain nombre de collaborateurs qui connaissent bien la France. Je pense évidemment à John Kerry, et je pense également à Tony Blinken, mais pas seulement. Eh bien, tous ces gens-là ont des liens avec la France qu'ils cultivent bien. Il est évident que pendant la transition, des contacts ont été pris, et tout cela devrait permettre un dialogue plus fructueux. maintenant. Oui. On verra comment répond le gouvernement américain à la proposition qui a été faite par la présidente de la Commission européenne, par exemple, aujourd'hui, c'était hier, d'avoir une vision plus stratégique de la relation transatlantique. Bref, de rebâtir remoduler la relation transatlantique.
Enfin, c'est America first. Hein. Faut pas l'oublier, de toute façon.
C'est normal, je pense qu'il ne faut pas... Imaginez un instant, demain, que Emmanuel Macron vous dise, je prends n'importe quel pays, dans la relation avec même les États-Unis ou l'Argentine, tout ce qu'on veut, ben, je vais être gentil avec eux parce que je les aime bien. Il va d'abord, et on lui demandera d'abord de défendre nos intérêts, et c'est ce qui compte. En revanche, cela ne veut pas dire, parce que les Américains vont défendre leurs intérêts, que nous n'avons pas une place, et en tout cas quelque chose à faire. Il nous appartient en revanche d'avoir, et je pense que dans ce sens, la présidente de la Commission européenne a bien fait, on l'a déjà dit sur votre antenne, il nous faut d'abord définir ce que nous voulons dans le cadre de la relation transatlantique pour pouvoir avoir des éléments à mettre sur la table de négociation avec les Américains. Mais pas simplement d'attendre que les choses se fassent, parce qu'on risquerait d'être déçus.
Quid de la fraude électorale ? Beaucoup de nos auditeurs nous disent l'élection a été volée, l'élection a été truquée.
J'aurai une double casquette, y compris la casquette d'avocat. On dit là-dessus des fraudes électorales ou en tout cas des irrégularités, parce que toutes ces questions sont un peu complexes, on confond fraude électorale et irrégularité électorale. La fraude, c'est lorsqu'on a véritablement, on organise les choses. On va rajouter des bulletins. L'irrégularité, c'est par exemple le fait que un bureau de vote se soit ouvert avec une demi-heure de retard ou est fermé avec une demi-heure d'avance. Bon. Il y a des fraudes partout et tout le temps. Enfin, des fraudes. Il y a des irrégularités partout, y compris en France, où on a même retrouvé des irrégularités lors de la dernière, l'avant-dernière campagne présidentielle. Donc, si vous voulez, ça arrive partout. Là-dessus, malheureusement, la démocratie est ce qu'elle est. Les juges regardent, et on peut être en 30 secondes technique, les juges regardent si les irrégularités, qu'elles soient volontaires ou pas, dans leur volume, ont pu avoir un impact sur la sincérité du scrutin. Et à partir de là, décide si on peut ou on doit ou pas annuler un scrutin. 60 juridictions se sont... On voit d'abord les choses de manière juridique. 60 juridictions se sont prononcées et n'ont pas fait droit à la demande du président sortant, alors même que le président a nommé un certain nombre de juges, y compris les juges fédéraux. Il n'y avait pas que les juges de la Cour suprême. Donc là-dessus, à un moment donné, il faut accepter qu'en démocratie, la justice tranche. Sinon, il ne faut pas s'en tenir à des impressions. Sur l'élément politique, on me dit oui, il y a toujours eu des fraudes, mais jusqu'à preuve du contraire, les gens ont été élus avec le même mode de scrutin. Et là encore, si les Américains, j'ai envie de dire le corps social, ne sont pas satisfaits du mode électoral, en tout cas du processus par lequel sont désignés leurs représentants démocratiquement, il leur appartient de le changer. Je note que Donald Trump n'a pas entrepris une grande mesure, alors qu'il avait une majorité large.
Il aurait pu dire,
je fais le grand nettoyage, je toilette tout cela.
Allez, on va marquer une pause et on se retrouve. Vous restez avec nous, Jean-Claude Beaujour. On va continuer à parler des États-Unis sur cet espoir qui est placé en Joe Biden. Il a dit hier, nous allons refaire des États-Unis la grande nation du bien dans le monde. Il y a tout cet aspect aussi religieux qu'on pourra évoquer, qui est très fort. Alors, on est en France, ils sont aux États-Unis, donc c'est sûr que ce sont des choses qui nous frappent. À tout de suite sur Sud Radio.